France Inter.
Bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Deliver me from nowhere, délivre-moi de nulle part, un titre de prière presque, et c'est bien de ça qu'il est question dans le film qui sort cette semaine, d'un homme qui, dans une Amérique en crise, a voulu transformer le désespoir en élan, la solitude en communion. Ce film, Springsteen, Deliver me from nowhere, donc revient sur la genèse d'un album devenu mythique, Nebraska, un disque enregistré seul, chez lui, sur un simple magnétophone, à cassette, et qui reste plus de 40 ans après l'un des témoignages les plus bruts et bouleversants de ce que peut être la musique américaine. Parce que Bruce n'est pas seulement Born to Run ou Born in the USA, ce n'est pas seulement les stades et les chemises retroussées, c'est aussi cette Amérique invisible, celle des routes vides, des vies cabossées, des héros sans gloire. Alors ce soir, on va parler de la légende, mais aussi de l'homme, de celui qui a su raconter la classe moyenne mieux que personne, de celui dont la musique résonne encore dans les fractures d'aujourd'hui. Pour en parler, deux invités qui connaissent bien ce pays, l'Amérique et ce mythe, Antoine Decaune, qu'on ne présente plus, et interlocuteur privilégié du boss, on peut le dire.
À la régulière en tout cas.
Et Grégory Phillips, rédacteur en chef international à LCI, qui a longtemps vécu aux États-Unis, qui connaît bien l'œuvre également.
Ouais, et Bruce, mais beaucoup moins bien qu'Antoine. Honnêtement, je suis tout petit comparé à Antoine, qui est notre maître à tous en Springsteenologie.
C'est pas moi qui le dis. Hein.
On va en parler aujourd'hui en tout cas. On va essayer de comprendre ce que Bruce Springsteen incarne encore à l'heure où l'Amérique qu'il a chantée semble parfois s'être effacée. On est ensemble pour une heure à la régulière.
France Inter. Régulière. Midi Maizy.
Alors, on va essayer, si tant est que ce soit possible, de retracer un peu sa carrière. On va bien sûr s'attarder un moment sur Nebraska, qui est quand même l'album au centre du film qui sort cette semaine. Mais Antoine, puisque tu es l'expert mondial.
Je suis expert de rien du tout.
Concernant Bruce, selon toi, à quoi tient le mythe Springsteen?
Je pense que c'est une histoire qui perdure, qui traverse l'histoire américaine depuis 50 ans maintenant, ouais. Et qui a servi de caisse de résonance à toute une population qui s'est retrouvée dans ce dont parlait Bruce dans toutes ses chansons depuis le début, et dont il continue à parler aujourd'hui, qui s'est identifié à ça. Et il est devenu, presque à son corps défendant, une espèce de porte-parole. Il détesterait ça parce qu'il déteste les étendards. Mais oui, il est devenu un... Bon, je sais pas, c'est la cinquième figure du Mont Rushmore quoi, aujourd'hui. C'est à la fois une institution, mais une institution vivante.
Est-ce que ça reste, justement, la question, une figure encore vivante là, parce que c'est un symbole actuel et pertinent aujourd'hui.
Plus que jamais aujourd'hui, ouais. Notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Donald. Oui, plus que jamais. Mais alors, ce qui est curieux et paradoxal et qui justement mérite d'être étudié d'un peu plus près, c'est qu'il est à la fois le représentant de tout le camp démocrate, progressiste, etc. Enfin, les gauchistes selon Donald Trump, oui. Et en même temps d'une Amérique profonde, rurale, ouvrière et qui parfois peut être très conservatrice aussi. Donc il est à cheval entre les deux, contrairement à ce que voudrait nous faire croire Trump.
D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a ce morceau, on y reviendra évidemment, mais ce morceau Born in the USA qui a souvent été vu comme un morceau extrêmement patriotique qui a été mal compris, alors que c'est un malentendu, Grégory. En fait, c'est pas ce que raconte ce morceau, ce que raconte Bruce Springsteen.
Ouais, le morceau raconte le sort qui est réservé par l'Amérique aux vétérans qui reviennent du Vietnam et qui sont délaissés, qu'on n'aide pas, etc. Et effectivement, il y a un énorme malentendu, alors qu'on a beaucoup disséqué. Il était joué dans les meetings de Reagan, etc. Mais c'est tout sauf un hymne patriotique à la gloire de l'Amérique. Au contraire, ça raconte le désarroi de ces vétérans revenus du Vietnam. Effectivement, c'est 50 ans d'histoire américaine, alors pour les Américains, mais aussi par rapport aux événements que ce pays a traversés. Enfin, il a évoqué la guerre du Vietnam, le 11 septembre 2001, il sort l'album de Rising, qui est l'album quasiment sorti des cendres du World Trade Center. L'arrivée de Trump au pouvoir, on voit qu'il écrit des chansons là-dessus. La désindustrialisation, il l'a raconté comme personne. Donc, toutes ces pages, les violences policières, avant Black Lives Matter, c'est lui qui les chroniques quasiment en premier. Donc, tous ces pans de l'histoire américaine, et qui est un peu aussi notre histoire, il les a chroniqués. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment aussi un chroniqueur des cinq décennies que ce pays vient de traverser.
Alors, Bruce Springsteen, c'est énormément d'albums, énormément de morceaux. C'est dur de choisir des morceaux, mais c'est notamment un morceau emblématique comme Born to Run.
Constraints like us, baby, we were born to run.
cette chanson, c'est une chanson, évidemment, mais c'est aussi un manifeste. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Je peux reprendre cette phrase. Cette chanson, c'est une chanson.
Oui, mais aussi oui,
mais
un manifeste.
Ah, mais aussi.
Mais aussi un manifeste. Qu'est-ce qu'elle dit de son époque, cette chanson, Antoine ?
Qu'est-ce qu'elle dit de son époque ? Elle dit qu'il faut, faut bouger, qu'il faut partir, qu'il faut s'envoler. C'est une envolée lyrique, d'ailleurs, ouais. Born to Run. Il faut partir, il faut essayer de vivre ses rêves et de surtout pas se laisser enfermer. D'où cette métaphore automobile qu'on retrouve dans moult chansons ouais. de Springsteen et qu'on lui a reproché un temps. On lui disait, mais tu n'arrêtes pas de parler de bagnole.
Ouais.
Sauf qu'il ne parlait pas de bagnole, il parlait de ce qui se passe dans les voitures, ce qui est une nuance.
Mmh.
La voiture étant un lieu presque théâtral dans son écriture.
Alors, on parle beaucoup notamment des années 70. Qu'est-ce qui le distingue de ses contemporains, Grégory ? Pourquoi lui parle à autant de monde à l'époque ?
Je pense, enfin, évidemment, je ne suis pas très rationnel sur toutes ces choses-là, mais moi, je pense qu'il est aussi important qu'un Bob Dylan, par exemple.
Bon, on les compare souvent.
Non, mais vraiment, il a raconté le pays, il a raconté l'époque, et effectivement, il a raconté une partie de la population dont on ne parlait pas dans les titres de rock. Quoi. Enfin, les ouvriers du New Jersey,
ouais.
D'Asbury Park et tout ça, personne ne racontait ces histoires-là, sauf un peu les chanteurs de folk. Et Springsteen ajoute à ça la puissance du rock, le lyrisme de certaines chansons, et donc il arrive à fusionner à la fois des récits enfin, qui remontent à, je sais pas, à Woody Guthrie, enfin, les héros du folk américain, mais aussi la puissance des rockers dans les stades, etc. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il occupe vraiment une part assez particulière dans le paysage. Quoi. Il y a honnêtement que lui qui est capable de faire tout ça en même temps.
Et puis on en parle au niveau américain, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi un type qui s'intéresse d'aussi près à la working class américaine, le New Jersey en particulier, son berceau, vient toucher un jeune bourgeois comme moi, vivant à Paris, dans le Paris des années 70. À quel point ça me raconte quelque chose? Quelque chose d'universel sur le mal-être, sur la nécessité de bouger, là, que j'évoquais il y a quelques instants, qui s'inscrit aussi dans une espèce d'Americana fantasmée.
Oui.
Nous, toute notre génération, je suis plus vieux que vous deux réunis, là, mais on a grandi avec ce mythe de l'américaine, l'Amérique qui avait libéré côté ouest, l'Europe du nazisme, mais aussi le cinéma américain, la littérature américaine, la musique américaine, la mode américaine, le comportement, c'est pas Eddie Mitchell ou Johnny Hallyday qui vous aurait dit le contraire.
Ouais.
On a grandi avec ça. Et quand Springsteen arrive, il vient de vous parler d'une autre Amérique, qui justement n'est pas cette Amérique des...
Qu'on a fantasmé.
Des cow-boys, des Indiens, ouais. des grands westerns, qui est autre chose encore. Et qu'on peut voir, qu'on peut trouver un peu dans le roman noir américain, par exemple. Dans des textes de Thompson, de Goodis, il y a des résonances.
Et ce qui est fascinant, tu le disais Antoine, c'est ce côté ultra-local. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'il raconte trois bleds du New Jersey, en gros. Freehold, Asbury Park et Cold Snake.
C'est le local, finalement, qui a réussi à être universel.
En fait. Effectivement, en racontant ces histoires, l'histoire de sa sœur, enfin dans The River, c'est des histoires extrêmement toutes petites, personnelles, qui se passent dans un tout petit coin du New Jersey. Et pourquoi ça parle à tout le monde dans le monde entier. Et c'est vraiment la force de l'art. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché. D'ailleurs, il vit toujours dans le New Jersey. Ça le nourrit. Il vit toujours à 20 km de l'endroit où il est né, je crois, ou vraiment pas loin. Donc ça le nourrit. Et ce langage, ce récit d'un petit coin du New Jersey sur la côte est des États-Unis parle au monde entier. C'est assez fascinant.
Alors, le film qui sort aujourd'hui se focalise sur l'album Nebraska. Pourquoi cet album plutôt qu'un autre, selon vous, Antoine ?
D'abord parce que c'est pas un biopic du tout, Deliver Me From Nowhere. C'est pas un biopic, c'est pas l'histoire de Bruce Springsteen.
Oui.
Comme ça a été fait déjà au cinéma avec d'autres artistes, Elton John par exemple. C'est un moment précis et c'est un moment très important parce qu'il suffit à éclairer tout Springsteen. C'est un moment où, quand il écrit Nebraska, c'est après le succès phénoménal de Born to Run, c'est après avoir fait la une de...
Il est au sommet à ce moment-là.
De Time et Newsweek, où vraiment il est... Oui, et encore, The River n'est pas arrivé, donc ça va encore monter d'un cran. Mais à ce moment-là, il est rattrapé par la patrouille. La patrouille étant son passé difficile, avec un père brutal, un peu alcoolo, dans cette petite working class du New Jersey, et l'histoire d'un môme qui est confronté à ses rêves, à ses désirs. Voilà, comment il va arriver à être ce musicien dont il a toujours rêvé. Non seulement il y arrive, mais au-delà de toutes ses espérances, il devient de son vivant une espèce de rockstar absolu. Et là, la réalité le frappe de plein fouet, et il comprend qu'il n'a pas résolu plein de choses. Et il se tape une petite dépression des familles, une bonne petite déprime. Il s'enferme dans une chambre d'hôtel et il écrit cet album Nebraska avec sa guitare sur un 4 pistes. Ça ressemble à des démos presque. Mmh. D'ailleurs, il enregistrera une version avec le E-Street qu'on peut retrouver dans la nouvelle version augmentée qui sort ces jours-ci. Et des chansons qui sont le côté dark de Springsteen. Côté sombre, le côté il essaie pas d'enrober les choses, la musique vient pas enjoliver tout ça ou la rendre plus lyrique qu'elle ne devrait. C'est vraiment, on est près de l'os avec des histoires qui sont autant de petites scénettes. D'ailleurs, il y en a une, Highway Patrolman, qui sera adaptée par Sean Penn au cinéma, Indian Runner, et qui sont autant de petits films, voilà, mais très noirs, très très noirs.
Je propose qu'on écoute un extrait quand même, qu'on écoute un peu le boss.
Et on peut pas écouter une chanson en entier, non, quoi,
c'est ce qu'on va faire tout de suite.
Ah bon?
Mais oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses d'Atlantic City?
J'entends extrait, moi. Extrait, c'est tant de secondes.
Un extrait de la carrière, de l'œuvre, du corpus d'album de Bruce Springsteen, Atlantic City. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up. And meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Everything dies, maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. That's a fact, but maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. So fix your hair up nice, fix yourself up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. C'était Atlantic City du boss Bruce Springsteen, donc qu'on écoute à l'occasion du film Deliver Me From Nowhere, qui lui est consacré, en tout cas qui est consacré à l'album Nebraska, et qui sort aujourd'hui en salle.
Mehdi Maizi à la régulière.
Alors, on a parlé un petit peu déjà de Nebraska.
D'où ça vient ce titre, la régulière?
Eh bien, je te conseille d'écouter la première émission avec Danny Dan, car ouais. c'est en référence à une expression qui est souvent utilisée par un rappeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Danny Dan.
Oui, mais qui signifie quoi?
Tout se passe bien à la régulière, tu vois, dans les règles de l'art. Dans c'est une expression qui est souvent utilisée, tu sais, par les commentateurs sportifs, notamment footballistiques. Donc Christian Jean-Pierre utilisait beaucoup ça à l'époque.
Donc je te la fais pas à l'envers, quoi.
Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Alors, Nebraska, t'as un peu posé le contexte de l'album. Grégory, est-ce que on peut dire que cet album-là aussi s'inscrit dans l'ère Reagan ? Est-ce qu'il a un sens particulier, en tout cas, aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut le lire aussi avec une forme de pertinence vis-à-vis de... Donc, il sort en 82. Est-ce qu'il est aussi lié à cette époque-là, cette période-là de l'Amérique ?
Alors, pour le coup, je peux me tromper, mais j'ai pas trop l'impression. C'est plus un récit extrêmement cinématographique. Je crois qu'il s'inspire notamment des films de Terrence Malick, etc. Ouais. Donc, il va chercher à la fois dans la littérature...
Pardon ?
Badlands.
Badlands, absolument.
Il va chercher dans la littérature, dans le cinéma... et puis aussi dans ses démons. Donc je pense que c'est plus une introspection qu'un commentaire de la mairie d'Oregon. Mais cet album Nebraska, pour beaucoup d'entre nous, c'est à la fois le Graal, la pierre philosophale et l'épure. Enfin, parce que Antoine l'a raconté, il faut imaginer, donc vous avez ce gars qui n'est pas très en forme, qui s'enferme dans une chambre d'hôtel. Il a juste, je crois, un assistant avec lui qui l'aide à manipuler le 4-pistes. Et il enregistre ça tout seul. Et en fait, c'est le Springsteen qu'on aime le plus. Enfin, on l'adore dans les stades quand il y a les Sweet Band. Mais là, c'est à l'épure. Mmh. Il y a juste sa voix, l'harmonica, la guitare. Et donc, comme des maquettes. Et en fait... Quand il veut sortir ça, la maison de disques dit non, attends, t'es fou, tu fais des tournées des stades, tu vas pas nous sortir un album de dépressif enregistré dans ta chambre avec ton 4-pistes. Donc d'ailleurs, il y a à l'époque, le Street Band joue sur certains titres que Springsteen recale, notamment le Born in the USA. Et c'est Springsteen qui tord le bras de sa maison de disques en disant non, on va le sortir tel quel, avec ce son-là, où on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, que j'ai enregistré ça dans ma chambre. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'épure. Parce que vraiment, vous avez la voix, la guitare, les textes, et rien d'autre, il n'y a pas d'artifice. Et c'est pour ça que pour beaucoup, c'est un de nos albums, évidemment, favoris, qu'on réécoute tout le temps.
Antoine. Et alors, pour le côté promo, là, ces jours-ci, sort un coffret Nebraska avec l'album original, l'album remasterisé, l'album joué avec le E-Street, parce qu'ils avaient pensé à un moment le sortir en version électrique, et puis un quatrième album avec Bruce qui reprend tout l'album intégral dans un théâtre vide, dans le New Jersey, aujourd'hui.
Okay.
Donc un document absolument indispensable pour tous les Springsteeniens. Ouais.
Ouais, toi qui l'as rencontré quelques fois dans ta vie, justement sur cet album-là, est-ce qu'il t'a déjà raconté des anecdotes particulières sur l'enregistrement de cet album, sur pourquoi justement c'est aussi nécessaire à ce moment-là de sa carrière de faire un album comme ça en rupture avec ses
précédents albums? Je pense que simplement il n'avait pas le choix, c'était une nécessité impérieuse, et c'est un artiste, Springsteen, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui écoute aussi, il n'est pas sourd à ce qu'on lui raconte, mais il s'écoute lui, et là il avait un besoin irrépressible d'enregistrer ça. Et sous cette forme-là. Et Grégory a tout à fait raison, c'est un Springsteen qu'on adore, mais qu'on va retrouver après dans des albums comme Devils and Dust ou The Ghost of Tom Joad, plus épuré, plus simple, moins orchestré que les albums avec le E-Street. La raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Et il s'en explique très très bien d'ailleurs dans son autobiographie, que je vous conseille vivement de lire, qui s'appelle Born to Run, que je vous conseille de lire en anglais, si vous lisez bien l'anglais, parce qu'on retrouve toute ce tempo, cette rythmique qu'il y a dans son écriture, où il s'en explique à cœur ouvert. Il y a le fameux tabou là, sur la dépression, sur la thérapie, tout ça vole en éclats, il met tout noir sur blanc.
Antoine Decaune et Grégory Philippe sont avec nous pour parler de Bruce Springsteen. Et alors, je me permets de révéler quelque chose que tu me disais en antenne. Antoine, tu me disais que tu aurais aimé le faire jouer au cinéma, mais en quoi justement Bruce Springsteen est un objet cinématographique aussi intéressant? Aujourd'hui, le cinéma s'en empare, quelque part. Alors, tu l'as dit, c'est pas un biopic, mais parfois c'est plus intéressant de parler de... Je pense souvent au film de Spielberg sur Lincoln, qui ne raconte pas la vie entière de Lincoln, mais qui est très intéressant, parce que justement, en prenant un élément historique, on comprend finalement très bien le personnage. C'est le cas aussi de ce film-là. Pourquoi le cinéma devait s'en emparer?
Alors pourquoi le cinéma devait s'emparer de cet épisode particulier de la vie de Bruce ? Ça, c'est Scott Cooper qui y répondrait le mieux, le réalisateur du film, parce que Scott Cooper est un réalisateur éminemment springsteenien. On retrouve la touche, l'influence, l'inspiration de Springsteen dans tout son cinéma, que ce soit Crazy Heart, évidemment, avec Jeff Bridges, que ce soit un film avec Christian Bale qui s'appelait Les Brasiers de je ne sais plus quoi, ou même dans Hostiles, son western tardif. Donc tout Springsteen est voilà, le honte, le travail, et c'était la logique des choses qui finissent par faire quelque chose sur la bête elle-même. Maintenant, Springsteen, moi j'ai toujours été frappé sur scène, son comportement sur scène, sa manière, le lien qu'il a avec son public et sa manière de jouer avec les humeurs, d'être aussi bien farceur que profond, que méditatif, que flamboyant, enfin, il y a toutes les gammes d'émotions, il passe, il y a un jeu de comédien là-dedans. Grégory le disait aussi hors antenne dans le spectacle de Broadway qu'il a joué seul sur scène il y a quelques années, où il était 2h30, 3h tout seul avec sa guitare et son piano devant le public, et où il racontait sa vie, il alternait des moments de sa vie, des évocations de moments de sa vie avec des chansons en recontextualisant. C'était stupéfiant, enfin, c'était un one-man show fabuleux. Donc j'ai toujours été convaincu que ça ferait un bon acteur.
Grégory, ça vient d'où l'appellation le boss? Pourquoi on l'appelle comme ça?
Alors, il y a plusieurs versions, donc je ne sais pas, Antoine, si tu connais la bonne. C'est lui qui donnait le cachet, c'est lui qui payait les musiciens du street band au début, donc il était le boss. Voilà, après...
Mais aujourd'hui, le monde entier l'appelle comme ça.
Est-ce que c'est le boss de l'Amérique? Je crois qu'au début, ça le gonflait un peu qu'on l'appelle comme ça, et puis finalement, il l'accepte.
Il n'a plus le choix.
Mais ça vient là de ses potes du street band qui venaient chercher les, je sais pas, $100 à l'époque, à la fin d'un gig ou quelque chose comme ça.
Et le groupe a une importance capitale pour lui, parce que c'est Springsteen and the Street Band. Ouais. Au point que une tournée, il y a très très longtemps, du côté de Chicago, il arrive et puis il y avait des panneaux publicitaires énormes avec marqué Springsteen ce soir. Et il fait arrêter le bus, il prend un rouleau de peinture, je ne sais pas où il le trouve, mais enfin un rouleau et un pot de peinture, et il rajoute sous Springsteen and the Street Band. À la main.
Donc il y a toujours cette espèce de...
Ah mais ça révèle tout ça, révèle tout, c'est un partageur.
Grégory, quand tu disais, oui, je sais pas
comme
si
boss.
C'est...
On a voulu avoir tous des boss aussi partageurs.
Quand tu disais, je sais pas si c'est le boss de l'Amérique, alors évidemment il est extrêmement populaire chez nous, en France, bien sûr, il remplit des énormes salles, mais peut-être qu'on se rend pas complètement compte de justement le rôle qu'il a aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, évidemment, en France, c'est pas un Français, donc il est pas dans l'actualité locale. Qu'est-ce qu'il représente là-bas, aux États-Unis?
Ah bah là, en ce moment, si tu veux,
et notamment en ce moment,
il est engagé dans une croisade politique contre Trump, qui est d'une virulence assez extraordinaire. La dernière tournée, y compris les dates qu'il a faites au Royaume-Uni, en France, etc., il y a des discours extrêmement violent contre Trump, enfin des diatribes pour dire que c'est un tyran qui est en train de s'emparer du pouvoir aux États-Unis. Et d'ailleurs, Trump a répondu, l'a quasiment menacé de poursuites judiciaires quand il remettrait les pieds sur le sol américain. Donc vous avez un Springsteen qui a toujours été assez politique. Oui. Mais là, il y va, quoi. Et c'est vrai que, alors, il est milliardaire, je pense qu'il est assez protégé d'éventuels soucis, etc. Mais il va au contact contre Trump, et alors, paradoxalement, il reste extrêmement populaire aux États-Unis. Je pense qu'il est honni par une grande partie des supporters Make America Great Again, parce que c'est vraiment deux Amériques qui se font face. Enfin, c'est un peu un cliché de dire ça, mais rarement le pays a été autant divisé.
Aussi fragmenté. Ouais.
Et Springsteen représente évidemment une partie de l'Amérique, mais pas seulement. Pas seulement, c'est vrai, qui représente aussi ces ouvriers du Michigan qui ont pu voter Trump, pour certains, mais qui se reconnaissent quand même dans le récit de la classe ouvrière que Springsteen a toujours porté. Là-dessus, il y a une anecdote qui donnait à Broadway, justement, et que j'aime bien. Il a chanté The River, le travail à l'usine, les fins de mois difficiles, etc. Et puis, il confesse sur Broadway, vous voulez savoir un truc? J'ai jamais bossé en usine. Depuis que j'ai 15 ans, je fais de la musique. Je suis parti sur les routes avec mes potes quand j'avais 18 ans. J'ai jamais bossé à l'usine. Donc, je suis un peu un arnaqueur. Mais regardez le talent que j'ai, c'est que j'arrive même à raconter ça. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ça fait œuvre. C'est-à-dire que, certes, il vient de ce milieu. Certes, il vient de Freehold, une petite communauté italo-irlandaise où il a très bien connu tous ces gens-là, mais il n'a jamais foutu les pieds dans une usine, à part pour y dormir quand il était jeune, dans une usine de surf, je crois, sur la côte. Donc il y a pour le coup un vrai talent artistique de réussir à s'emparer de ça et à raconter ça.
Alors, il y a évidemment, là on parle beaucoup de la période Nebraska, mais il a continué de sortir des albums, et notamment un album aussi qui s'appelle The Rising, si je ne dis pas de bêtises, qui sort vraiment, tu l'as dit Grégory, après le 11 septembre 2001. Dans quelle mesure c'est un artiste qui colle à l'actualité, en fait, qui a besoin de l'actualité pour créer. Et est-ce qu'on, parfois on parle d'artistes qui sont conscients, c'est-à-dire engagés, qui vont constamment s'engager, est-ce qu'on peut considérer que Springsteen est un chanteur engagé?
Je pense qu'il est profondément américain, il est profondément amoureux de son pays. Vraiment, il est essentiellement américain, c'est-à-dire...
Avant d'être engagé, oui, c'est d'abord le sort de l'Amérique qui lui importe.
Il vient d'immigrer, hein, c'est un mélange d'Irlande, d'Italie, ouais. C'est un drôle de creuset, la famille Springsteen. Et donc, il est très attaché aux valeurs fondatrices de l'Amérique. Il transige pas avec ça. Et c'est un homme qui a une colonne vertébrale assez assuré, on va dire, et qui... Ce qui lui importait, c'était pas tellement de commenter l'actualité politique. Il avance sous couvert de métaphores, il avance pas en faisant... Il n'est pas chansonnier, quoi.
Oui, oui.
Et quand il monte un peu au front, c'est qu'il estime que l'heure est grave et qu'il faut y aller, mais c'est pas... Moi, Springsteen, qui vais vous apprendre à penser, qui vais vous dire, c'est beaucoup plus subtil que ça.
C'est moins partisan, c'est surtout.
Oui.
Après,
on connaît sa couleur. Oui. On sait, c'est un humaniste, c'est un progressiste, c'est quelqu'un de tolérant, d'indulgent, d'ouvert, de curieux. Voilà, donc c'est pas un réac, un vieux réac enferré dans ses certitudes.
Après, il s'est beaucoup engagé politiquement aux côtés d'Obama, par exemple. Ouais. Alors, il y a une histoire d'amitié, puis il y a une histoire politique où moi, je me souviens avoir vu Springsteen débarquer avec sa guitare dans les meetings d'Obama pendant la première campagne. À l'investiture. Donc il y a aussi un véritable engagement
partisan.
Voilà, pour prendre ton expression.
Bon, nous parlons, mais on va écouter un peu de musique quand même. Bah oui, je sais que ça vous fait plaisir.
Bah oui.
On va se lancer.
Je suis venu pour ça.
Hein. On peut se faire après si tu veux une session. Mais le corpus, le fameux d'album Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, tout de suite dans La Régulière. c'était Dancing in the Dark de Bruce Springsteen.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et nous sommes avec Antoine Decaune et Grégory Phillips pour parler donc du boss à l'occasion de la sortie du film Deliver Me From Nowhere. Alors,
on peut dire un mot sur Dancing in the Dark, là, qu'on vient d'écouter ?
Tu peux m'en dire une dizaine,
mais non, parce qu'en fait, c'est on évoquait tout à l'heure le fameux Born in the USA, le malentendu qui a eu autour des paroles. Ça, c'est une chanson qui parle de mal-être, qui parle de détestation de soi, qui parle éventuellement de suicide, she's gonna... et qu'on écoute comme une chanson joyeuse, hein, un truc de danse. D'ailleurs, le clip qu'il avait tourné avec Brian De Palma, on était l'illustration... flamboyante, il était là en train de danser avec cette actrice
Courtney Cox
ouais. Voilà, et c'était joyeux, c'est dansant, c'était bien éclairé, alors que dans le fond, ce dont il parle, c'est le mal-être, enfin c'est sombre, et c'est ça Springsteen, voilà.
Oui, oui, il a beaucoup chanté ça finalement, le mal-être, même se sentir mal, la dépression, on l'a dit, c'est quelqu'un qui a vraiment chanté ça, c'est pas uniquement, c'est vrai que parfois il y a cette espèce de confusion sur l'image de quelqu'un qui a toujours le poing en l'air, extrêmement fier, ça existe, il y a ce côté-là, mais c'est pas uniquement ça.
Moins cette confusion chez Herbert Leonard.
Absolument, c'est vrai. Pourquoi pas. Alors, tu l'as dit, ce film Deliver Me From Nowhere n'est pas un biopic, mais il va être présenté comme tel. On pourrait le considérer comme tel. En tout cas, c'est un film qui parle de Bruce Springsteen. Je propose de citer quelques biopics. J'en ai sélectionné trois. Et on en parle, parce que vous les avez probablement vus. Et on pourra même, parce que Antoine, toi, tu as déjà vu le film sur Bruce, tu pourras me dire où est-ce que ça se situe par rapport à cela. Mmh. Et j'aimerais commencer avec un film de 91. C'est pas le premier biopic, mais c'en est un en tout cas. Oliver Stone, qui filme Jim Morrison comme un dieu perdu dans son propre feu. The Doors, c'est moins un film sur un groupe qu'un film sur une transe. Et le regretter, que j'aimais beaucoup, Val Kilmer, y incarne un Morrison halluciné, magnétique, détruit, l'artiste absolu et ingérable. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Alors, Oliver Stone filme le rock comme une religion sous acide, le désert californien devient un temple, les concerts des messes et Morrison un prophète sans message clair, sinon celui de la liberté totale. Ce biopic-là ne cherche pas la nuance, il veut montrer la démesure, le vertige, la chute. Qu'avez-vous pensé de ce film à l'époque ? Est-ce que vous l'avez vu ?
À l'époque, oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
J'avais bien aimé, moi. J'aimais bien le côté rimbaldien qui donnait à Morrison. Voilà, après, le souvenir que j'en ai, c'est qu'Oliver Stone est un cinéaste très politique.
Absolument.
On s'en est encore rendu compte par la suite.
Ah ouais, oui.
Et ce qui lui importait, c'était l'écart entre la vision artistique d'un artiste, comme pouvait être Jim Morrison, et puis la réalité de l'Amérique dans laquelle il vivait et qu'il s'imaginait transformé par la seule puissance de son art.
Absolument. Alors, 14 ans plus tard, James Mangold, réalisateur d'ailleurs assez sous-côté, que j'aime bien, qui signe Walk the Line. Et là, le ton change complètement, on quitte le chaos pour entrer dans la confession. Le film raconte l'histoire de Johnny Cash, de ses débuts dans les champs de coton, jusqu'à sa renaissance amoureuse avec June Carter. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. Alors ici la musique n'est plus une malédiction, c'est une planche de salut. Cash chute, se drogue, s'autodétruit, mais il se relève, guidé par la foi, par l'amour et par la scène. Là où The Doors filmait l'Europe comme un trip mystique, Walk the Line filme l'Amérique morale, celle qui pardonne, celle qui croit qu'on peut renaître de ses fautes. Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon jouent Cash et Carter avec une humanité désarmante. Grégory, je t'ai vu acquiescer quand tu as entendu le titre du film.
C'est bien que tu choisisses celui-là, parce qu'à mes yeux, c'est vraiment le biopic réussi. Parce que honnêtement, on a vu quelques trucs assez ratés ces dernières années, et celui-là.
Oui, maintenant, il y en a une.
Ouais, flopée. Il y en a disparant, et souvent c'est raté.
Et c'est pas fini.
Ouais, et souvent c'est vraiment pas bien. Et là, Walk the Line, d'abord, ça parle d'un de mes héros personnels aussi. Enfin,
Johnny Cash,
incroyable. Phoenix. Est hallucinant dans le film. L'histoire avec June Carter est incroyable. Enfin, les reconstitutions du concert à la prison de Saint-Quentin, je crois. Ouais. Mais c'est hyper bien fait. Et vraiment, on comprend toute la noirceur qui habitait évidemment l'homme en noir. Non, non, franchement, enfin, dans les, c'est un des meilleurs biopics de ces, ouais, ces sorties quand d'ailleurs.
Il y a dans les années 2000, il faudrait reprendre, ouais, genre 2005, années, je crois.
C'est un exactement des meilleurs. Ouais, c'est
d'accord.
Sûr.
Entièrement d'accord. J'abonde dans ce sens. C'est définitif ce biopic. C'est une perfection. Et alors il y a en plus Joaquin Phoenix hein, qui fait une
performance, plus,
une performance de dingue. Il y a un moment moi, dont je me souviens quand il est dans le studio Sun en face de Sam Phillips, oui, et que là il vient passer son audition et que la première fois il n'y arrive pas, quoi, c'est pas là. Et l'autre lui dit mais tu sais que c'est ta vie que tu es en train de jouer. Et il y a un switch qui s'opère chez Phoenix au moment, ouais, à ce moment-là, et il devient Johnny Cash. Quand il reprend, ouais, sa guitare, Johnny Cash est là. Et c'est la performance d'acteur là, à ce moment-là, j'en étais resté, mais baba.
Et donc c'est bien en 2005 que, okay, c'est sorti. Et puis en 2019, alors peut-être un film que vous avez moins aimé, mais qui en tout cas, je pense, est assez important dans l'espèce de mode de biopic qu'on a vu ces dernières années, c'est Rocketman, donc un film sur Elton John, réalisé par Dexter Fletcher, qui assume totalement le contraire des deux précédents, un biopic fantasmé, un conte musical qui fait légèrement exploser la réalité. Le film ose quelque chose que peu de biopics avaient tenté, il ne veut pas reconstruire la vérité, il veut filmer un peu la perception, comment un gamin timide est devenu Elton John. Il est joué par Taron Egerton, et pour moi il a un peu réinventé le biopic ces dernières années. Qu'en avez-vous pensé, Antoine? Est-ce que tu l'as aimé celui-ci?
Alors moi, grande passion pour Elton John, moins grande pour le biopic, ouais, et dans le genre de biopic qui raconte, qui redéroule toute l'histoire de A à Z, il y en a un qui lui est infiniment supérieur à mon goût, c'est Better Man.
Oui, ouais, donc sur Robbie Williams.
Ouais, ouais, sur Robbie Williams, avec ce parti pris complètement fou de le faire jouer par un singe. Par un singe, ouais, ouais. On se dit ça va tenir 5 minutes, et puis pas du tout, oui, ça tient magnifiquement jusqu'à la fin. Et c'est dans ce genre-là, c'est celui que j'ai préféré de tous.
Bon, on retourne tout de suite à Bruce Springsteen. Le film qui lui est consacré, en toi, qui est consacré à l'album Nebraska, est disponible depuis aujourd'hui. Alors, ce morceau, le fameux morceau qui a créé le malentendu Born in the USA, n'est pas présent sur Nebraska, mais je ne résiste pas à l'idée qu'on l'écoute. Un morceau, comme vous l'avez dit plus tôt, comme tu viens de me le rappeler, qui devait être sur Nebraska, ouais, qui finalement n'y est pas. Est-ce que c'est le plus grand tube de la carrière de Bruce Springsteen?
Ah, je ne sais pas. Je sais pas comment ça se mesure.
Quand il
tube,
le joue
tube en termes...
En tout cas, le morceau signature, peut-être le plus iconique dans sa carrière.
Quand en concert, là, par exemple, sur la dernière tournée, ouais, il entame au Stade Vélodrome, ouais, Born in the USA. Alors, les puristes préféreront évidemment quand il est plutôt sur Born to Run ou qu'il va chercher Darkness, etc. Mais il y a quand même... Quand d'un seul coup, les premières notes au clavier arrivent, vous avez 60 000 personnes qui exultent. Donc je pense que c'est quand même le signe que ce truc est d'une part indémodable et à jamais associé à Bruce et à ses concerts.
Ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que c'est de son aveu même le morceau le plus difficile à chanter.
Techniquement,
ouais, bah on l'entend là, il y va jusqu'au bout, quoi. Et quand Jeremy Allen White l'a fait pour les besoins du film, il est resté à faune pendant 3 jours derrière.
Ah oui, ouais. Ok. Donc Jeremy Allen White, c'est celui, hein, qui joue Bruce Springsteen, ouais, dans le film. Ouais, ouais.
Je suis sur ce morceau, sachant que Bruce, lui, c'est des concerts de 3h30 et ouais, qui, voilà, ouais, il envoie ce niveau-là, quoi.
C'est pour ça que le boss est le boss.
Ben voilà.
Alors, quand un artiste devient une superstar mondiale, souvent, on va avoir une partie du public qui va considérer que c'était mieux avant, qu'à un moment, quand il est extrêmement connu, très populaire, il perd de son authenticité. Est-ce qu'à un moment, Bruce Springsteen est passé par là? Est-ce que vous, en tant que fan, qu'auditeur, que connaisseur de sa musique, il y a un moment où vous l'avez perdu? Ça n'a jamais été le cas.
Alors, perdu, perdu nom. Je me suis un peu éloigné, moi, la première fois qu'il s'est séparé du E Street, parce que j'étais quand même très attaché au E Street, et puis voilà, il est parti s'installer quelques temps en Californie, et il a enregistré deux albums qu'à l'époque j'ai mal écouté, et auxquels je suis revenu bien après.
D'accord.
Pour en découvrir toute la richesse Human Touch et Lucky, je sais pas quoi. Enfin, deux albums.
Ouais, voilà, Lucky Town.
Lucky Town, voilà, sorti dans la foulée. Et donc avec d'autres musiciens que ceux du E Street, avec des musiciens locaux. Mais en revanche, des morceaux... alors, on n'est pas habitué au type d'arrangement et de production qu'il y a dans ces deux albums-là, mais deux très beaux albums.
Et toi, Grégory, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que c'était mieux avant Bruce Springsteen?
Sur disque, un peu comme Antoine, mais moi, il m'a toujours attrapé sur scène. C'est-à-dire que, et ça, c'est un truc que les gens qui ont eu la chance de le voir sur scène, en live, etc., je pense, ressentent, c'est la même joie. Enfin, j'imagine, moi, je ne l'ai pas vu en 75 quand il jouait sur des petites scènes avec le street band, mais quand je le vois aujourd'hui, j'ai l'impression que la même communion, que les gars se font autant plaisir que quand ils étaient au Stone Pony à Asbury Park à jouer devant 200 personnes. Et ça, est-ce que, quand ta question dit est-ce qu'il a changé, est-ce qu'on l'a un peu perdu, etc., en tout cas, on retrouve cette même énergie, cette même communion, enfin, qui est presque, c'est un peu con de dire ça, mais moi ça m'émeut de voir ces vieux potes sur scène qui ont l'air de s'amuser, d'être contents d'être ensemble, de faire de la musique ensemble, et ça ils l'ont pas du tout perdu, ils l'ont depuis 50 ans.
Okay. C'est une histoire complète, parce qu'en fait c'est un groupe de club au départ, le Street Band, ils jouent au Stone Pony, dans le New Jersey, enfin dans des petits clubs, et ils sont potes depuis qu'ils sont adolescents, Steve Van Zandt, ils sont copains depuis toujours. Ouais. Et il y a une histoire à l'intérieur du groupe, il y a ceux qui meurent, par exemple, on ne quitte pas le E Street, on le quitte que les pieds devant. Donc il y a Danny Federici, il y a Clarence Clemons, le saxophoniste, mais dont le rôle va être repris par son neveu. C'est complètement fou, en fait. Ouais. L'histoire du groupe elle-même est un roman.
On pourrait faire un biopic sur le groupe.
Non, mais un roman. Un auteur inspiré, tiens, un chalumeau ferait ça très bien.
Bon, en attendant de trouver cet auteur, je propose qu'on écoute un autre morceau du boss, Bruce Springsteen, Because the Night. Ça vous va, ça?
Oh, bah tout me va.
Ouais, bon, c'est cool, ça. Because the Night.
Bruce.
Bah, allez, c'est parti.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try to understand.
Because the night belongs
Because the Night, morceau cultissime signé Bruce Springsteen.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Antoine, tu connais ces morceaux par cœur ?
Signé Springsteen, complété par Patti Smith. À qui il en fait cadeau à l'époque, il devient un tube majeur pour Patti Smith, qu'elle a d'ailleurs encore interprété hier soir à l'Olympia.
Tu étais
Non.
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 Mais tu sais ce qu'elle a joué. Il
y avait Kaamelott.
Oui, mais c'est vrai.
Ça peut pas être partout. Hein.
C'est vrai ce qu'elle vit. En tout cas, tu connais ces morceaux par cœur, et quand tu les entends, on sent que tu vibres encore. Hein.
Ah bah oui.
Ça reste important pour toi.
Le jour où je ne vivrai plus, je serai mort, quoi.
Même sur Bruce.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr.
Alors,
mais de toute façon, je pense que cette musique, alors on parle de Bruce là aujourd'hui, mais il y a des gens comme ça, je sais pas, McCartney, les Beatles, c'est des gens qui font partie de la bande son de mon existence. Oui. J'écoute ça depuis que je suis au monde, donc ça me touche toujours autant. Et ce qui me touche, c'est que au-delà des je sais pas 5000 écoutes, ça continue à fonctionner, ça continue à me parler, ça continue à me raconter l'histoire.
Alors, on parlait de l'album The Rising, donc sorti l'album du 11 septembre, on peut le dire. Il y a plusieurs morceaux sur cet album, notamment Waiting on a Sunny Day. Alors, c'est un moment où l'artiste devient presque une figure morale aussi aux États-Unis. Grégory, comment on explique le fait que le public lui fait autant confiance ?
Parce que je pense qu'il ne dévie pas de ses valeurs, de ce à quoi il croit. Alors on peut penser ce qu'on veut de son engagement auprès d'Obama, etc. Être plus ou moins démocrate, anti-Trump, etc. Mais lui, c'est vrai qu'il a une colonne vertébrale qui est la même depuis 50 ans. C'est le rock, l'Amérique, la fidélité à ses potes. Et les valeurs de l'Amérique qu'on aime. Voilà. En gros, je pense que sa colonne vertébrale, c'est à peu près ça.
Et puis le respect du public,
respect énorme du public. Tu parlais de concerts de 3h, 3h30.
Encore aujourd'hui, hein.
Non mais oui,
c'est encore des concerts.
Il a 75, 76 maintenant.
Parce qu'il a 76, parce qu'en fait, il envisage ça comme une conversation qu'il entretient avec son public depuis des années, des années, des années. Et donc, il vient. C'est pas un artiste qui vient sur scène faire son show et puis qui se barre. C'est capital pour lui qu'il y ait un retour du public, qu'il y ait une résonance. Et donc c'est très marrant quand on le voit en concert aujourd'hui, c'est comme les Stones, hein, il y a trois générations confondues, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, il y a des mômes, moi j'ai vu des mômes de 15-16 ans qui sont là, qui connaissent déjà leur Springsteen sur le bout des doigts, et c'est super émouvant en fait, parce que c'est un lien, c'est un lien extraordinaire.
Qu'est-ce que, j'en prie,
tu sais Mehdi qu'il y a deux catégories de gens dans la vie. Il y a les gens qui aiment Bruce Springsteen et il y a les gens qui ne l'ont pas encore vu sur scène. Et une fois que tu l'as vu sur scène... Non, franchement, c'est une expérience. Moi, j'ai amené ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, quand il est passé à la Défense Arena, donc il y a 2-3 ans. Honnêtement, elle en a un peu marre de Springsteen. Enfin, à la maison, elle n'en peut plus. J'ai un Springsteen en carton dans ma cave. Enfin, voilà. Donc, elle n'en peut plus.
J'ai un Springsteen en carton dans ma cave.
Oui, c'est terrifiant.
Bon, voilà. Donc, elle n'en peut plus. Et je lui ai dit, viens le voir quand même sur scène. Donc, elle avait 15 ans à l'époque. Elle est sortie, mais... Mais putain, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça.
Ouais.
Le concert avait duré 3 heures. Ma fille était en transe.
C'est pas commun des concerts de 3 heures, hein, honnêtement.
Oui, et surtout, c'est pas parce que quand on voit des grandes tournées internationales, tu citais les Stones, c'est super sur scène tout ça. Mais c'est parfois un peu mécanique. Je vais peut-être heurter des gens, mais même McCartney sur scène, c'est un peu mécanique. Mmh. Le scénario du concert est assez écrit à l'avance. On sait à peu près. Springsteen, on a l'impression que c'est le premier ou le dernier concert de sa vie qui va tout donner, qui va jouer sa vie sur scène. Mmh. Et alors, peut-être que je me fais totalement avoir et que je suis très naïf, hein, mais en tout cas, il donne...
Ça marche sur toi, en tout cas, mais sur beaucoup de gens.
Et ça marche sur les gens. On a l'impression, ok, là, ce soir, il a tout donné. Mais c'est comme ça tous les soirs, quoi. Et il n'est pas du tout dans ce côté mécanique des grandes stars dont le show est un peu rodé. Et puis, il y a autre chose. Ma fille avait été surprise. Elle me dit, ah oui, mais il n'y a pas du tout... Il n'y a quasiment pas d'artifice, quoi. Il y a un peu de lumière. À la fin, il allume toutes les lumières de la salle et on joue les gros tubes. Donc il n'y a que la musique et son énergie. Il n'y a pas de décorum autour. Et c'est vrai que c'est assez surprenant sur scène.
Alors si Grégory parle de sa fille, moi je peux parler d'Alain Chabat.
Oui, j'ai entendu parler de ce mec.
Qui l'a vu sur scène pour la première fois il y a quelques mois et qui m'a envoyé un mot après le concert en me disant mais j'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Je comprends pourquoi tu l'aimes tellement. C'est inouï. C'est vraiment inouï. C'est le mot qui convient.
Alors je pense que la transition est parfaite pour la question qui tue.
car effectivement, j'avais prévu que nous parlions de concerts. Bruce Springsteen est connu pour ça. Selon vous, en antenne, nous parlions tout à l'heure et Antoine m'a dit « Il n'y a pas de meilleur album de Bruce Springsteen, on ne choisit pas. » Mais je vais vous demander de choisir pas un album, mais un concert. Quel est, selon vous, la plus belle tournée de Bruce Springsteen ou le plus beau concert du boss?
Moi, je dirais que c'est le premier que j'ai vu, puisque il y avait une telle attente.
C'était à quel moment?
Fin des années 70, ouais. ou peut-être qu'en 80.
Dans quelle salle, tu te souviens?
Madison Square Garden, à New York. Voilà, ils faisaient une série de 5 ou 6 concerts, et moi, j'ai assisté au premier, et c'est comme ça que j'ai pu le rencontrer à travers un ami commun, qui était Garland Jeffries. J'avais vu des concerts, hein, quelques-uns dans ma vie avant, j'avais jamais vu ça, littéralement. C'est-à-dire, il prenait le Madison Square Garden, dès l'entrée en scène, c'était déjà chaudissime, mais au bout de 3h30, 4h, la salle était en état de lévitation. Je ne sais pas comment le dire autrement, de transe totale. Lui, l'attente à oxygène qu'il attendait à la sortie de scène pour se remettre du choc. J'ai vraiment... Alors, après, j'en ai vu plein. J'ai jamais été déçu, en fait, pour dire les choses, prendre le problème à l'envers.
Est-ce que, parce qu'on ne l'a même pas vraiment dit dans cette émission, mais tu as une vraie relation avec lui aujourd'hui, tu l'as encore interviewé, je crois, il y a quelques jours. Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que immédiatement il y a une forme de complicité qui naît entre vous, ou c'est au fur et à mesure des années que ça s'est créé, ou ça a été immédiat?
Non, en fait, moi j'ai eu la chance de le rencontrer dans d'autres circonstances que professionnelles.
D'accord.
Donc présenté par un ami commun, et comme j'avais fait le voyage, qui était à l'époque une galère, quand on n'avait pas un rond, c'est-à-dire un charter qui partait du Luxembourg, qui passait par l'Islande pour finir à New York, cauchemar total, voilà, mon pote Garland me le présente en disant voilà, c'est Antoine qui a fait tout ce trajet pour venir voir le concert, et l'autre n'en revient pas, quoi. Tout Springsteen qu'il est, il n'en revient pas qu'un petit Français ait fait ce périple juste pour lui.
Ouais.
Et donc ça, voilà, ça a établi une relation. Quand on s'est revu après, j'étais pas le journaliste qui venait lui poser des questions.
Toi, Grégory, sur un concert?
Moi, c'est un concert que j'ai pas vu, mais que j'ai vu en vidéo. Je crois que c'est 1975, Hammersmith Odeon à Londres,
sublime,
qui a été capté. L'énergie qu'il y a dans ce gamin qui doit avoir, il a 30 ans, 75 ou quelque chose comme ça,
même pas
30 ans, l'énergie, mais il saute partout sur scène, il court, il saute sur le piano, il tombe, il danse avec Clarence, les mecs sont tellement heureux d'être sur scène, il virevolte sur lui-même, il y a des filles qui montent sur scène, qui lui arrachent un baiser, lui il se marre, enfin c'est vraiment... Voilà, si un jour je devais avoir une autre vie, moi je veux être dans le E Street Band en 75 à vivre cette folie-là. Après, je l'ai vu aussi beaucoup moins de fois qu'Antoine, mais je sais pas, une dizaine, quinzaine de fois. Pareil, j'ai jamais été déçu. Et plus récemment, l'expérience à Broadway, seul sur scène, tout à l'heure je parlais d'Épure, de Pierre Philosophale, etc. Seul sur scène à Broadway avec juste une guitare, un piano et le récit de sa vie, c'était absolument incroyable.
Messieurs, pour compléter sur le fameux concert...
On n'a plus beaucoup de temps, vas-y, je t'en prie.
Le fameux concert du Hammersmith Odeon en 1975, il y a une version acoustique de Thunder Road qui est mon morceau préféré.
Merci beaucoup, merci énormément Antoine Decaune, merci Grégory Philippe, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler de Bruce Springsteen à l'occasion de la sortie du film Deliver Me From Nowhere, disponible aujourd'hui en salle. Merci aux personnes qui ont préparé cette émission, Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Selim Guéribi et Sibyl Clamins. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, on se retrouve avec la rappeuse, chanteuse Sheng. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.